Voici l'actualité francophone sur Inter. Bienvenue à tous. Au sommaire cette semaine, le financement de la recherche au cœur des débats en Suisse. La priorité helvétique à l'innovation est mise à mal par la rigueur budgétaire. Au Canada, c'est le débat sur l'aide médicale à mourir et les soins de fin de vie qui mobilise entièrement le Parlement. Les systèmes de sécurité sur le rail mis en cause en Belgique après une collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises. Bilan, 3 morts. Et puis en France, l'ouverture de l'Euro de football dans un climat morose après les attentats, les inondations et les grèves. Voici les hôteliers qui se fâchent, en cause les sites de location entre particuliers qui ne font pas payer la taxe de séjour. Il réclamait plus de moyens pour que la Suisse défende sa place en termes d'innovation. Les milieux de la recherche et de la formation n'ont finalement pas été entendus. Ils devront se contenter des quelques 29 milliards d'euros proposés par le gouvernement pour la période 2017-2020. Des moyens qui s'inscrivent malgré tout à la hausse, Pierre-Henri Chauffin.
26 milliards de francs suisses pour la recherche et l'innovation, c'est en effet une croissance des budgets de 2% par année. Mais la commission de l'éducation espérait plus, ne serait-ce que pour compenser l'augmentation du nombre d'étudiants dans les universités et les EPF, les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich. À l'origine, le gouvernement se voulait également plus généreux, mais la baisse des rentrées fiscales a déclenché un programme d'économie pour maintenir l'équilibre budgétaire et le secteur de la recherche n'y échappera donc pas.
Du coup, est-ce que l'innovation reste une priorité pour la Suisse ?
Eh bien, du point de vue de la majorité du Conseil national, la Chambre du Peuple, c'est clairement oui. C'est juste la croissance des moyens qui est moins rapide qu'imaginée, comme l'explique le libéral radical genevois Benoît Genecamp.
C'est plus que la dernière période, c'est 1 milliard de plus. C'est le plus gros programme en fait fédéral, c'est le programme également qui a connu la plus grosse croissance ces dernières années. Donc je crois que c'est faux de dire que dans ce domaine-là, il y a un coup de frein. 1 milliard de plus, c'est pas un coup de frein. 26 milliards, c'est 2 fois le Gothard en 4 ans. C'est pas mal quand même.
Le fameux tunnel du Gothard dont la Suisse s'est glorifiée la semaine dernière, une coïncidence d'actualité avec le débat sur l'innovation qui a fait sortir de ses gonds cet autre libéral radical, le vaudois Fatih Derder.
Moi, ce qui me désole beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on soit dans ce débat où on va renier sur des budgets de formation, de recherche et innovation, ceux-là même qui ont été indispensables pour faire le Gothard, qu'on a célébré en grande pompe, et demain on va venir nous dire non mais attendez, il faut couper par-ci, il faut couper par-là, parce qu'on a déjà trop donné à l'armée, on a déjà trop donné aux paysans, on a déjà trop donné ici et là, et donc on va renier dans cette recherche qui fait l'avenir du pays.
Vous l'aurez compris, Fatih Derder voulait, lui, une hausse d'au moins 3% des investissements dans cette matière grise qui fait la force de l'économie suisse. Il s'accroche désormais au faible espoir que les sénateurs de la Chambre des cantons se montrent plus généreux cet automne.
Au Canada, Madeleine Blais-Morin, c'est le dossier de l'aide médicale à mourir qui a occupé le Parlement cette semaine.
Oui, parce que c'est un changement fondamental qui est survenu au Canada mardi dernier. Depuis le début de la semaine, l'aide médicale à mourir n'est plus un acte criminel au pays si elle est pratiquée à l'intérieur de certaines balises. Dans un jugement historique l'an dernier, la Cour suprême du Canada avait invalidé 2 articles du Code criminel qui interdisaient la pratique, mais la Cour avait donné un laps de temps au Parlement pour amender sa loi pour encadrer l'aide médicale à mourir. Entre-temps, il y a eu une élection, la formation d'un nouveau gouvernement et tout s'est bousculé près de la date butoir du 6 juin. Et avec un dossier si délicat, l'échéance est passée et il n'y a toujours pas de loi.
Alors, quelles sont les conséquences?
Bien, d'abord, au Québec, l'impact est à peu près nul pour le moment parce que la province avait une longueur d'avance. Elle avait déjà sa propre loi, contrairement aux 9 autres provinces du pays. Les collèges des médecins des différentes provinces ont élaboré des normes et pratiques au cours des derniers mois, mais elles varient d'un bout à l'autre du pays et le gouvernement fédéral croit qu'il risque d'y avoir un problème d'accès. Une partie de ping-pong pourrait s'engager entre les deux chambres et c'est difficile de prédire précisément quand le projet de loi pourrait être formellement adopté.
En Belgique, Nathalie de Vicon s'interroge toujours sur les causes d'un accident entre 2 trains, l'un de voyageurs, l'autre de marchandises, qui a fait 3 morts.
Dont le conducteur du train de voyageurs. De nombreuses questions demeurent, effectivement. Défaillance humaine ou technique, la foudre aurait pu frapper les installations électriques, déréglant la signalisation. Le train de marchandises était à l'arrêt, il s'était signalé. Le train de voyageurs, lui, roulait à pleine vitesse. Il a freiné trop tard pour éviter la collision. Pourquoi n'a-t-il pas ralenti, comme le signalait lui indiquer de le faire. En attendant que l'enquête réponde à cette question, s'en pose une autre, récurrente, celle du fonctionnement du système de sécurité, le fameux système de freinage sécurisé, censé équiper aujourd'hui tout le réseau.
Il est censé équiper, vous voulez dire que ce n'est pas toujours le cas, Nathalie ?
Depuis un précédent accident encore plus meurtrier, il y a 5 ans, notre pays s'était engagé à investir dans ses infrastructures ferroviaires et à équiper chaque train de ce système de freinage automatique d'urgence. Depuis le début de l'année, la société Infrabel, qui gère le réseau belge, considère que son implantation est terminée et assure une protection à 99,9%. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les signaux sur le rail en soient équipés eux aussi. Or, à l'endroit de l'accident, ce n'est toujours pas le cas. Le tronçon ne serait pas considéré à risque, ne comportant ni aiguillage, ni croisement, ni passage à niveau. Pourtant, il y a 10 ans, une collision frontale s'y était déjà produite, à quelques centaines de mètres, entre là aussi 2 trains, de marchandises et de voyageurs. Mais voilà, le programme de modernisation a pris du retard et vérification faite sur l'ensemble du réseau. Seuls 2/3 des signaux disposent de ce freinage automatique.
En France, Annette Ardisson, à l'occasion de l'Euro 2016 de football, les hôteliers déclarent la guerre au site de location entre particuliers. Ils ont décidé de faire la grève des taxes.
Oui, c'est la consigne des organisations professionnelles, ne plus reverser aux collectivités locales, pendant la durée de l'Euro, la taxe de séjour qu'ils perçoivent auprès des clients. Une façon de mettre la pression sur l'État pour qu'il la mette à son tour sur les sites type Airbnb ou Abritel. Objectif, les obliger, comme les hôteliers, à collecter dans toute la France, cette fameuse taxe.
Est-ce qu'elle est importante ?
Entre 20 centimes et 5 euros selon la catégorie hôtelière et la ville qui en fixe le montant. À Paris, où l'expérience est menée par Airbnb, la collecte a quand même rapporté 1,2 million pour les seuls 3 derniers mois de l'année dernière. Quant à Abritel, pourtant partenaire officiel de l'euro, il ne demande rien. Théoriquement, c'est aux particuliers de percevoir cette taxe et de la reverser à la ville, mais beaucoup oublient, et quand ils le font, elle est moins élevée que dans les hôtels. D'où la grogne de cet hôtelier lyonnais, Laurent Duc.
Dans ma ville de Lyon, lorsque vous avez un hôtel 3 étoiles sur la place Bellecour, qui a une taxe de séjour à 1,10€, en face, un appartement à 220€ par jour avec une chambre et demie, on va dire, puisque un canapé et une chambre et une salle de bain, lui verse 0,83 centimes, donc c'est pas équilibré.
Oui, en vérité, l'Euro 2016 de foot n'est qu'un prétexte. C'est la concurrence des particuliers que dénoncent les professionnels de l'hôtellerie. Comme avant eux, les taxis face à Uber Pop. Uber, dont 2 dirigeants viennent d'être condamnés à 800 000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis, pour pratique commerciale trompeuse et complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. 800 000 euros, c'est à peine le prix d'un 100 mètres carrés à Paris.
Et c'est la fin de ce nouveau numéro de l'actualité francophone. Merci à tous. Rendez-vous sur lesmediafrancophones.org et à la semaine prochaine.